Voilà, là ça marche, voilà. Voilà. Le Zrat Hashem. Ça va marcher. Vous voyez quelque chose? Oui, c'est pas grave, on y va. Bon, ça fait que une demi-heure qu'on essaie de se connecter à Internet, à Eli. Il y a des problèmes de connexion ce soir. Bezrat Hashem, on va voir un petit cours sympathique. D'accord? On va commencer à le shiur avec l'aide de Dieu. Voilà, il y en a un qui regarde. Ça y est, c'est bon. Le live, il a commencé. Et trois quarts d'heure. Ça fait trois quarts d'heure qu'on est sur la connexion Internet. Partagez un maximum la vidéo autour de vous. Bezrat Hashem. Voilà. Pour que ce cours soit diffusé un maximum. Alors bien sûr, le cours sera pour la Refoua Shelema de notre maître, le Rav Chaim Yosef Sitruk Ben Simcha Hema, Bezrat Hashem, Shiskel Refoua Shelema, avec l'aide de Dieu. Mis à part ça, pour la Refoua de Dvora Batlea, encore d'autres personnes, on profite des débuts. Yitzhak Ben Aziza. Alexandre Abraham ben Avichai ben Marie Myriam. Oui. Sarah Bat Esther. On dirait vente aux enchères. Après. Batia Bat Lizette. Ok. Bezrat Hashem. Sarah Bat Marine Sultana. Bat Marine Sultana. Batia, c'est une petite. Non? Bon. Bezrat Hashem. Léa Bat Esther. Ok. Bezrat Hashem, donc pour la réfoua de tous nos malades, pour l'élévation des âmes de tous nos défunts, Bezrat Hashem, et de l'ensemble du clan Israël aussi. Nos âmes aussi, elles doivent un peu s'élever. On a tout le temps, après 120 ans, mais déjà ici, qu'on les élève un peu. Bezrat Hashem, d'accord. Et pour la réussite du tout à chacun, et bien sûr, pour que Akadosh Baruch Hu protège nos chayalim un petit peu partout aujourd'hui en Israël, vu que... Ça y est. Les fêtes, elles sont terminées chez nos cousins, ils sont un peu excités, alors que Dieu les calme. Alors maintenant, Bezrat Hashem, on voit, hein, par rapport à ça, hein, on va voir un cours très intéressant ce soir, en réalité. On voit, durant le mois de Elul, il y a un nombre de Iloulot, un nombre d'anniversaires, de tzadikim, impressionnant. Alors hier soir, j'ai donné un shiur, les gens ils m'ont dit, mais Gvodara, vous n'avez pas parlé de Chai Be'Elul. Je savais qu'on était Chai Be'Elul. Date anniversaire de la naissance du Baal Shem Tov, de la Nmura Zaken, d'accord. C'est aussi la Eloula, la date de décès du Rav Abdallah Somer, Avraham Somer, qui était un des grands maîtres en Irak, bref, un grand possèque halakha, un grand maître. Et on voit, hein, il a enseigné parmi ses élèves, on compte le Ben Ishraï, le Rav Yosef Chaim. Alors, ce qui est amusant, c'est que, justement, le Rav Yosef Chaim, qui est le Ben Ishraï, on lui a rajouté le nom de Chaim. Yosef Chaim, qui, Bezrat Hashem, que ce shiur puisse lui rajouter encore de la vitalité. On a encore le mérite d'écouter encore quelques-uns de ses enseignements, parce qu'on en a encore un petit peu besoin de ses lumières. Bezrat Hashem. Voilà. Et que Dieu fasse qu'il soit protégé de tous ceux qui ont envie de l'embêter en ce moment. Voilà. Parce qu'il y en a pas mal. Alors... On voit en réalité, c'est ce qui se passe en réalité avec les rois. Ouais, parce que pour nous, un grand maître, c'est comme un roi. C'est un roi de la Torah. C'est un maître. Mikhatata. Bon, Bezrat Hashem. Donc, qu'est-ce qu'on voit en réalité? On voit par rapport à ça, hein, qu'un grand maître de la génération, comment on l'appelle? On l'appelle Sara Torah. Vous inquiétez pas. Ça va aller. Bezrat Hashem. Vous voulez un enregistrement en duo en parallèle? C'est ça que vous voulez?
Oui, comme ça qu'on puisse,
au pire des cas,
avoir un...
Bon, Bezrat Hashem. Alors, il est où l'enregistrement en duo, là? Attends. Est-ce que vous me demandez des trucs, là? Alors, Bezrat Hashem, voilà, on l'a trouvé. Voilà, il est là. Allez, viens, enregistre. C'est parti. Baruch Hashem, voilà. Donc, il y a l'enregistrement en duo en parallèle. OK? Avec l'aide de Dieu, c'est maintenant le cours, pour partager un maximum, qu'il y ait un maximum de vues sur ce cours. Ce n'est pas du tout le même style de cours qu'on a fait hier soir. Tous les mardis, on donne un cours à Yerushalayim sur le thème du couple et du Shalom Bayit. Là, c'est un cours un peu différent. On va parler de petits secrets sympathiques. On voit qu'il y a un débat dans le Talmud qui vient et qui nous explique qu'on ne sait pas exactement à quelle date le monde a été créé. Ah ouais, attendez. Parce que on voit le calendrier hébraïque. Il commence au mois de Nissan. On est tous d'accord. Donc, Rosh Chodesh Nissan, c'est le calendrier hébraïque. Pour ceux qui ne savent pas de quoi on parle, Rosh Chodesh Nissan, ce n'est pas la marque de voiture japonaise, d'accord ? C'est Rosh Chodesh Nissan, tout simplement. C'est la période, le mois durant lequel il y a la fête de Pessah, la Pâque juive. Maintenant, c'est le premier mois de l'année, du calendrier hébraïque. Et pourtant, Rosh Hashanah, on le célèbre, d'accord ? Au mois de Tishri, qui est le septième mois de l'année. Je sais que je l'ai déjà dit. Maintenant, la question est la suivante. Il y a un avis dans la Gemara qui dit que Dieu a créé le monde à Rosh Chodesh Nissan. Qu'il a commencé à créer le monde à Rosh Chodesh Nissan. Il y a un autre avis dans la Gemara qui dit non. À Kadosh Baruch Hu, il a commencé à créer le monde. Kav Dalet Be'elul. Le 24 Elul. D'accord ? Le sixième jour de la création, on se retrouve fin du mois de Elul, Rosh Chodesh Tishri. D'accord ? Et c'est le premier jour de la création. C'est le jour où Adam et Ève auraient été créés selon cet avis-là. Vous suivez ou pas ? Maintenant, nous, on peut se poser la question. Et on a pour coutume de dire que c'est cet avis-là qu'on suit. Ben, moi, je pose une question. Akadosh Baruch Hu, c'est le roi des rois. D'accord ? Il sait que nous, moi, personnellement, en maths, j'étais nul à l'école. Nul. Je ne veux même pas vous dire les surnoms que m'ont donné mes profs de maths, tellement... Les pauvres, ils ont déprimé. Donc, ce qui se passe par rapport à ça... Hein, oui, je sais, il y a des profs dans la salle. Alors, maintenant... Hein, oui, j'étais l'élève qui déprimait les profs en maths. Donc... Par rapport à ça, parce que il y a un professeur de maths à Sarcelles, M. Mafoda, il a fait une thérapie à cause de moi. Maintenant, il est content quand il me voit, parce qu'il se lève, il dit au moins il est devenu rabbin. Alors, M. Mafoda, si vous nous regardez. Alors maintenant, par rapport à ça, on voit quoi? On voit tout simplement que si Akadosh Baruch Hu, il est tout puissant, il sait qu'on est nul en maths, nous. Pourquoi il va commencer à nous créer le monde le 24 Elul? C'est-à-dire à la fin du mois de Elul. Oui ou non? Il ne peut pas le créer au début du calendrier hébraïque. C'est intéressant ou pas? Et on voit Chai Be'elul. Alors, beaucoup vont dire que c'est la vitalité du mois, le Chai. Okay, moi, je suis né Chai Be'Shvat. Au mois de Shvat, c'est la vitalité des arbres. C'est après tout Be'Shvat, d'accord? Je suis né là-bas et je m'appelle Chai Mishai en plus. Hein. Alors, on pourrait faire des drachotes sur ça. Chai Mishai, rachetez votre Chai. Il est né à Chai Be'Shvat. Et on entend des drachotes, justement, sur le Baal Shem Tov, sur l'Admour Hazaken, d'accord ? Sur le Rav Nachman de Breslev, qui est aussi décédé à cette date-là. Non, je dis des bêtises. Le Rav Nachman de Breslev, c'est pas ce mois-ci. C'est le mois prochain. C'est Chai Betishri. Il est né Rosh Chodesh Nissan, il est décédé Chai Betishri. C'est intéressant, quand même. Moi, je trouve ça intéressant. C'est-à-dire, si réellement on voit que la date du Chai du 18, c'est la vitalité du mois, on voit qu'il est intéressant de constater que durant ces dates-là, on constate la venue au monde, ou le départ, d'un grand nombre de personnes importantes pour l'humanité. En l'occurrence, dans le judaïsme, de grands maîtres. Je ne parlais pas de moi, hein, je parlais des autres. Le Baal Shem Tov, l'Admor HaZaken, d'accord ? Donc, et on voit par rapport à ça, hein, donc on voit que c'est date anniversaire du Baal Shem Tov et de l'Admor HaZaken, et date de décès d'un grand nombre de tzadikim. C'est-à-dire, vous regardez dans votre calendrier hébraïque, il n'y a pas que des tzadikim en Europe de l'Est, qui sont nus au monde et qui sont décédés à cette date-là. Il y en a énormément. Comment on peut expliquer une chose pareille? On voit que la Kabbalah nous explique, tout simplement, dans Otsrot Haïm, et là, ça va commencer à décoller. J'espère que vous êtes avec moi ce soir. Bezrat Hashem. Dans Otsrot Haïm, on nous explique dans la Kabbalah qu'il y a le Shaar HaIgulim. Kadosh Baruch Hu, il a créé au départ ce monde à partir de rien. Rien. C'est pas rien. Rien, le néant. D'accord? À partir de ce néant-là, à Kadosh Baruch Hu, dans ce Tohu Vavohu, ok, dans ce Tohu Bohu, en réalité, nos maîtres nous expliquent en réalité que le Tohu Bohu, traduit de Tohu Vavohu, en réalité, non. C'est des matières premières que Dieu a créées pour créer ce monde. Et en les mélangeant, il a créé, tout simplement, les ténèbres. Et à travers ces ténèbres, des ténèbres, il a créé la lumière. Ça, on reprend Bereshit. C'est intéressant. En réalité, si on voit bien, les six jours de la création, chaque année se renouvellent. Chaque année, la création se renouvelle. Pourquoi ? À Rosh Hashanah, qu'est-ce qu'on vous dit ? Ayom Arat Olam. Aujourd'hui, le monde rentre en gestation. Alors, en gestation, on explique. Hein, les 9 mois de gestation, c'est les 9 mois où l'enfant est dans le ventre de sa mère, où il se développe. Donc ça veut dire que le monde, là, il est sur le point d'être enfanté. Il est recréé. Alors, on rappellera normalement que quand il y a un Tav Refouya, donc un Tav sans le Dagesh à la fin d'un mot, le Tav, il se prononce de façon plus faible. Donc la coutume al pi alakha, pour tout le monde normalement, c'est de le prononcer arat, avec un léger à la fin. Nos frères ashkenazim, ils sont arrivés directement, c'était compliqué pour eux. Ils ont eu des problèmes de diction, c'est-à-dire parler l'allemand, le russe et tout, c'est compliqué pour eux, les pauvres. Vous avez vu les langues. Alors maintenant, ce qui se passe tout simplement, non, franchement, vous allez en Europe de l'Est, ils vous parlent les types, qu'est-ce qui s'est passé? Alors maintenant, par rapport à ça, qu'est-ce qu'on voit tout simplement? Directement, ils disent aras. Bon, aras, ça veut dire en hébreu détruire. On sait très bien c'est quoi la kavana. On n'est pas là pour critiquer les coutumes des uns ou des autres. Mais on voit en réalité qu'il y a un point extrêmement important qui a été totalement mis de côté par beaucoup, beaucoup de rabbanim de cette génération, beaucoup de grands maîtres de cette génération, qui est l'importance de la diction et de l'élocution lorsqu'on lit la Torah et lorsqu'on prie. Oh. Et vous savez pourquoi? Parce qu'on va l'expliquer un peu ce soir. Parce que dans notre façon de parler, on a tendance à avoir une influence sur la création qui nous entoure. Ben c'est clair. C'est quoi la différence entre l'homme et toutes les autres créatures de ce monde? Ben moi, je vais vous le dire. On voit dans Bereshit, Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il a créé l'homme, par le nez, quand il lui a fait insuffler sa première inspiration, il lui a introduit dans son corps la Neshama. Et comment Ankolos traduit la Neshama? Rucha umlala, un esprit qui parle. Donc la différence entre nous et toutes les autres créatures, c'est qu'on a une faculté à communiquer à travers la parole comme aucune autre créature de ce monde. Alors c'est vrai, on va me dire les dauphins, c'est vrai, on va me dire les éléphants, c'est vrai, je rigole pas, les souris, qui ont des facultés même télépathiques à discuter entre elles, c'est des choses, les gens ne savent pas, les fourmis, c'est vrai, dans la création, les autres créatures arrivent à communiquer, mais pas aussi bien que nous en termes de parole. Mais c'est quoi cette différence? Parce que les autres aussi, ils parlent. Alors c'est quoi un esprit qui parle? Là-bas, on dit Rucha. Rucha, Ruach, c'est un vent. C'est Akadosh Baruch Hu, il nous a fait respirer pour la première fois. C'est intéressant parce que Neshama, c'est la même racine que Neshem. Neshem, c'est Neshima. Neshima, c'est respirer. Neshama, ça vient de respirer. Et on voit qu'Akadosh Baruch Hu, il a introduit la Neshama à travers le nez, qui nous sert principalement à respirer. Maintenant, la question qu'il y a, c'est, et la Neshama, on nous rapporte dans la Kabbalah, qu'elle rentre au niveau du front, d'accord? Elle sort par le front, à l'endroit où les hommes mettent les tefillin, c'est à cet endroit-là que la Neshama sort. Il y a le Nefesh qui est dans le corps, il a trois niveaux, le Nefesh. Il est accroché au niveau du diaphragme, là. Tout le monde sait que le diaphragme, c'est ce qui fait la séparation entre les organes supérieurs et les organes inférieurs. Ça, c'est premièrement. Mais le diaphragme, quand on commence à inspirer, c'est grâce au diaphragme qui vibre qu'une partie de notre voix arrive à parler et à s'exprimer à travers nos cordes vocales. Ça devient intéressant pour cette histoire. Maintenant, par rapport à ça, qu'est-ce qu'on voit? On voit tout simplement que Dieu nous a donné la faculté à travers la parole comme lui. Qu'est-ce qu'on dit? Quand on veut faire la bracha sur un verre d'eau, voilà, on m'a apporté un verre d'eau, Baruch Hashem. Quel bracha on fait? Baruch Ata Hashem, Elokeinu Melech Haolam, Sheakol. Donc, Baruch, c'est un débat dans les poskim, parmi les rishonim. Et on voit, c'est dans la Gemara que c'est rapporté. Certains disent que c'est Baruch Mvorar, c'est-à-dire que Dieu, il est béni, mais c'est logique qu'il soit béni. Et d'autres vont dire, non, Baruch, c'est Mekor Aberacha, c'est la source de bénédiction. Dans la Kabbalah, on nous rapporte que quand on dit le terme Baruch dans une bénédiction, il faut avoir pour intention de se dire que Dieu est la source de bénédiction. Baruch, Ata. Toi, Hachem. Donc on dit comment? Il faut savoir que dans le cadre de l'enseignement, on peut dire réellement le nom de Dieu. Donc je vais le dire. D'accord? Adonai. Pour que les gens ne se trompent pas. Ça veut dire quoi? Mon maître. Mais dans le Shulchan Aruch, il est rapporté que quand on dit ce nom-là, c'est le Shem Adnout, il faut dire Adon Hakol. C'est le maître de tout. Donc toi. Toi, la source de bénédiction, je sais que c'est toi, le maître de ce monde. D'accord? Elokeinu, c'est quoi Elokeinu? Alors, comme il rapporte le Shulchan Aruch, c'est la El, c'est la puissance, la force. La source de notre force, de notre santé dans ce monde. Eloheinu, donc toi, la source de notre puissance et de notre santé. D'accord? Melech, le roi, seul roi. Aolam, de toute la création à travers toutes les dimensions. À la fin, qu'est-ce qu'on dit sur le verre d'eau ? Shéakol, Nia, Bidvaro. Shéakol, que tout, Nia, existe, apparaît, Nia, d'un seul coup, ça existe, c'est. D'accord ? C'est le verbe être. C'est d'un seul coup devant nous, ça existe. Bidvaro, par sa parole, par la parole de Dieu. Donc Dieu, entre guillemets, ce qui est rapporté ici par rapport à cette bracha, c'est que quand Dieu parle, il dit une chose, la chose se crée. Oh. Vous avez jamais vu, vous avez jamais constaté ces gens qui se mettent l'œil à eux tout seuls ? Non, vous ne les connaissez pas ceux-là ? Non ? Alors on dit al tiftarpe la satan, n'ouvre pas la bouche au diable. Quand tu vas dire une chose, elle risque d'arriver. Donc tu vas donner en réalité, tu dis peut-être je ne suis pas méritant. C'est-à-dire quoi, petit rapé la satan ? C'est-à-dire quand je pense, moi, qu'il m'arrive quelque chose de bien. Quelque chose de bien. On va donner un exemple comique. Un monsieur, il a acheté un billet de loto. Il est parti voir, c'est une histoire vraie, hein. Il est parti voir le Rav Meir Mazouz. Il avait des problèmes d'argent. Le Rav Meir Mazouz, il lui a fait une bracha. Il lui a dit, écoute, Khatpe Ami, va jouer au loto. Khatpe Ami, on n'a pas le droit de jouer chaque semaine, mais pour une cagnotte de façon exceptionnelle, on peut, de temps en temps. Pour pas tomber dans le vice du jeu, Khaz Shalom. Donc il est parti jouer à la cagnotte, au loto, au toto, je ne sais pas comment ça s'appelle ces trucs-là ici. Donc il est parti jouer, il y a des numéros. Oui, maintenant les numéros ils sortent après, ils vous mettent la pub partout pour les numéros. Et les numéros sortent, et lui il entend, il voit les numéros. Et il lui semble que c'est tous les bons numéros. Il se dit, attends, c'est tous les bons numéros. Il se dit, attends, donc j'ai sans doute gagné. Il se dit, avec la chance que j'ai sans doute perdu le billet.
Oh non.
Attendez, il rentre chez lui, il ne retrouve pas le billet. Bon, c'est une longue histoire qu'on ne racontera pas à la fin. À la fin, il a touché son argent. Ne vous inquiétez pas. Elle est longue, l'histoire. Elle est longue. On ne va pas la raconter ce soir, sinon ça va prendre tout le temps du cours. Mais Baruch HaShem, il a eu. Baruch HaShem. Mais des fois, on a des gens tout seuls, eux tout seuls. Shalom Uvracha, ça y est, ça bug. Désolé, il y a une très mauvaise connexion. On est dans Yehuda et Shomron. La connexion n'est pas bonne. Voilà. Bezrat HaShem, on va voir, tout simplement, par rapport à ce qu'on est en train de dire, que parfois, nous, par notre parole, on crée une réalité. Positive ou négative ? Vous n'avez jamais vu quelqu'un de super positif ? Moi, j'en connais un ici dans le Yishuv, je ne vais pas dire son nom. Il est super positif. Quand vous lui parlez, c'est un plein de vitamine C, le garçon. Hein ? On va dire ses initiales, hein, c'est M et Aleph, plus loin, d'accord ? M-A, hein ? MMA, ouais. Ouais, comme l'assurance. C'est une bonne assurance vie en même temps, ce garçon. Alors maintenant, Bezrat HaShem, qu'est-ce qu'on voit ? On voit, hein, tout simplement, qu'on voit des gens qui sont positifs, et avec leur positivité, ils arrivent à provoquer des choses avec leurs paroles, parce qu'ils y croient. Une question d'Emouna. Quelle est la particularité ? Quand on dit que l'homme, il a un esprit qui parle, c'est que l'homme, il a cette faculté de pouvoir créer des mondes avec sa parole. Mais ça marche que dans certaines conditions. Chachamim nous rapporte, et parmi les Rishonim, il le rapporte, tout simplement. Le Rav Ben Sion Abba Shaul, dans le Or Lishon, il le rapporte au nom de Poskim et de Rishonim, Ashkenazim. Que la bonne prononciation pour le Lashon HaKodesh, la langue hébraïque de la Torah, c'est une prononciation qui se rapproche de la prononciation arabique. Ouais. Donc quand on vous dit Aïn et Waouh et toutes ces choses-là, c'est pas pour rigoler. Le Vav, c'est quoi ? Qu'est-ce qui représente le Vav ? Si on dit que Akadosh Baruch Hu, qui était dans le ciel, sur le Sinaï, il a transformé un Yud en Vav, il est descendu ici, ici-bas. Ah, il est descendu pour englober toute la création. Donc quand toi tu dis Vav, Ve'ahavta, tu n'englobes que toi. Mais quand tu dis We'ahavta, toute ta bouche se transforme et tu englobes toutes les parties de ta bouche. Ta bouche, elle devient toute ronde. Ça devient une bouche ronde comme la création. Ovale même. Parce que notre bouche, elle est ovale quand elle s'ouvre. Comme la terre qui est ovale. Donc ça veut dire quoi en réalité ? Dans notre façon de prononcer les lettres, dans notre prière, il y a des secrets extraordinaires. Et ça, ça a été mis de côté. Mieux que ça, certains dénigrent ça. Ils disent, ah regarde, tu veux reconnaître un rabbin séfarade, il va te parler que de Dikdouk. Ouais, c'est ça. Moi, je vais vous poser la question. C'est amusant de se constater que même les kabbalistes Ashkenazim, ils font très attention sur leur façon de prononcer les mots et sur les règles de Dikdouk. Pourquoi? Parce que dans votre façon de prononcer vos prières, dans votre façon de prononcer des mots, vous créez des sons. Et ces sons ont une résonance. Essayez d'imaginer que vous avez une serrure. Il y a des scientifiques ici, on a des ingénieurs dans la salle. Oui. Et ça existe, les serrures sonores, qui ne vont réagir qu'à certaines vibrations sur certaines fréquences. Il y a des coffres-forts qui fonctionnent comme ça. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Donc ça veut dire quoi en réalité? Ça veut dire dans votre façon de prononcer, le ton que vous allez employer, dans la dynamique que vous allez employer sur ce mot, si c'est mel-el ou mel-ra, si l'accent tonique sur, du mot est sur les premières syllabes du mot, sur les dernières syllabes du mot. On va donner un exemple. Si vous allez voir un Israélien et vous dites « lehem », oui, vous dites « lehem » comme ça, l'accent tonique sur la fin. Oui, il croit quoi? Il croit que vous lui parlez de la ville, Bethlehem. Mais maintenant, si vous dites « lehem », l'accent tonique, il est sur le lamed, il comprend que vous voulez du pain. Parce qu'à l'oreille, c'est comme ça qu'ils ont l'habitude. Observez bien. Et les Français, quand ils arrivent en Israël, tous les accents toniques, comme en français, ils sont à la fin. Surtout ceux qui viennent de Paris, parce qu'ils n'arrivent pas à chanter. Les Marseillais, ils ont plus de facilité, parce qu'eux, ils chantent quand ils parlent. Ben Pourat Yosef. Ouais. Donc ça veut dire quoi, tout simplement? Ça veut dire que dans notre façon de dire les choses, et puis ça, c'est indéniable. Pourquoi? Parce que le Harizal lui-même, il en parle. Ah ouais, il y a Moshe qui est avec nous. Il a t'as une longue vie, Moshe. On parlait de toi, il n'y a pas longtemps. Baruch HaShem. Donc c'est indéniable, tout simplement. Le Harizal, qu'est-ce qu'il nous dit? Bon, qui revient vite, Moshe, hein, on t'attend. Hein. Alors, Bezrat HaShem. On voit par rapport à ça, qu'est-ce qu'on voit? On voit, hein, tout simplement, hein, que ici, dans le Otsrot Chaim, on voit le Shar HaIgulim. Donc on nous dit que Dieu, quand il a créé ce monde à partir de rien, il a pris deux matières premières, le Tohu Bohu, d'accord? Le Tohu Bohu. En français, Tohu Vavohu, Wavohu, si on veut être exact. Et quand il les a mélangés, ça a créé la création. Le Zohar en parle. Tant faut savoir étudier le Zohar, parce que vous pouvez étudier le Zohar jusqu'à demain, ouvrir Matok Midvash et les explications jusqu'à demain, vous n'allez pas avoir ces explications-là. Il faut savoir étudier. Il faut avoir étudié avec des maîtres. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, Baruch HaShem, pour étudier la Torah, on a tout traduit en français. Il y a plein de sites extraordinaires sur lesquels j'interviens moi-même. Jardin de la Torah, Torah Box, IsraelTorah.com. Il y en a plein. C'est pas ça. Espace Torah, Ben Pourat Yosef. On n'a jamais vu, même pour les Français, autant de sites de Torah. À la limite, les gens aujourd'hui disent ah, encore un cours de Torah sur Internet. Oui, mais Baruch HaShem, on n'a jamais vu autant. Mais il y a une chose qu'il faut bien comprendre, tout simplement, c'est qu'on peut étudier sur Internet, on peut étudier dans des livres traduits, on peut étudier, mais si on n'étudie pas avec les maîtres eux-mêmes, qui sont accessibles dans cette génération. Où est-ce qu'on va? Ouais. Alors, il y a beaucoup de gens sur Internet qui sont étonnés de me voir. Ils m'ont connu il y a 20 ans. Alors, il y en a qui disent le prénom civil, entre guillemets. Hein, Baruch HaShem, ça les amuse. C'est très bien. Moi, ça ne me gêne pas. Sur ma Théoudat Zehout, j'ai rien changé. J'ai toujours trois prénoms. Un premier un peu américain, comme tous les Tunisiens. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est comme ça. Hein? Non, pas Brandon, quand même, faut pas exagérer. Non, hey, on balance pas les dossiers. Gary, hey, comme Gary Cooper. Alors maintenant, c'est un beau gosse, Gary Cooper. Hey, c'est un beau gosse, Gary Cooper. Au moins, c'est pas Brandon, c'est qui celui-là? Alors maintenant, ah, il y avait Marlon Brandon, Brando, mais c'est pas Brandon, non? Donc voilà, par rapport à ça, qu'est-ce qu'on voit? On voit toujours Echaim Victor, comme mon grand-père. D'accord? Le jour de ma Brit Mila, mon grand-père paternel, s'est adressé au Moël, il lui a dit, attention, je t'avertis. Au moment de la nomination, il a averti tout le monde. Il a dit, c'est moi qui fais le kidouche, c'est lui le Moël. C'était pas lui le Moël, c'était lui Sandak. Et le Moël, il a dit, je t'avertis, tu me laisses. Et tu te mêles pas. Ok. Et il dit, Haïm. Il dit quoi, Haïm? Ni il a rapporté Gary, ni il a rapporté Victor. Pourtant, lui, il s'appelait Victor. Haïm Victor aussi. Et le Moël lui a posé la question. Après, ce Moël, Zichrono Livracham, m'a raconté la petite histoire, qui était anecdotique. Tout simplement, il lui a dit, mais pour quelle raison tu l'as nommé que Chaim? Il a dit, parce que viendra un jour où ce petit-fils-là, tout le monde l'appellera que Chaim. Il a vu quelque chose que nous, on n'a pas vu, hein, la vérité, parce qu'il y a 20 ans, tu m'aurais dit, je deviens rabbin. Bon, alors maintenant, je ne t'aurais pas cru. Maintenant, par rapport à ça, On continue, Bezrat Hashem. On voit donc que, par rapport à ça, on voit donc dans le Otsrot Raïm, ici, une chose extraordinaire. On dit, voilà, Dieu, quand il a créé différentes sphères, avec une lumière intense. De cette lumière intense, il a créé, d'accord, des sphères. Et dans ces sphères, il y avait une lumière extérieure, d'accord, qui rentrait à l'intérieur des sphères, pour créer une lumière intérieure, et quand la lumière intérieure passait dans les sphères, elle était filtrée, et elle ressortait, parce qu'il y avait un cercle infini qui se créait, et quand elle ressortait, cette lumière était purifiée, et créant une énergie encore plus grande et plus importante qui se recyclait autour de toute cette création qui n'était encore là que spirituelle. Vous suivez ou pas? Donc un cercle de lumière, d'accord, qui rentre au milieu des sphères. Hein, ça, c'est Sharei Aigulim, Agol, d'accord, diront. Oui. Dans la parasha de Varim, Rabbi Shimon Bar Yochai rapporte que ce monde n'a été créé qu'avec des sphères. Tout ce monde. Et que même nos corps ne tiennent qu'à travers ces sphères. Et ce qui fait tenir toutes ces sphères ensemble, c'est l'ardout, l'unité entre elles. Et à travers une énergie que lui appelle Hashmal, dont on parle dans le Tanakh aussi, Hashmal. Le terme hébraïque qui qualifie l'électricité aujourd'hui, on en parlait à l'époque, c'était pas l'électricité. Hashmal, de sentir. Crash, c'est ressentir mal qu'on est coupé de cette création matérielle parce qu'on veut se relier au spirituel, mais qu'on est coupé du spirituel parce qu'on vit dans une création matérielle. Hashman. Et c'est intéressant, pourquoi? Parce qu'on voit, quand on prend les atomes, les molécules, d'accord, avec les neutrons, les protons, les électrons, etc., etc., toutes ces énergies, la matière qu'on a ne tient qu'à travers l'unité entre eux, parce qu'ils se soutiennent les uns les autres à travers cette énergie. Rabbi Shimon Bar Yochai disait, c'est que des petits cercles qui tournent les uns autour des autres. Toute la création, comme tu vois la galaxie, les planètes, il en parle. D'accord, il y a 2000 ans, hein, cette histoire. Il en parle. Comme tu vois les galaxies, les planètes qui tournent les unes autour des autres, qui font tenir la galaxie, et qui créent aujourd'hui la gravité sur chaque planète, subit une influence de l'autre planète de la galaxie, parce qu'il y a une distance qui se préserve entre ces planètes, et chacune subit la gravité de l'autre. Oh, la gravité parfaite qu'on a sur la planète Terre, et dû à toutes les autres planètes qui sont autour d'elle. Ouais. On parle même du nombre de planètes qu'il y a dans cette galaxie. Suivez ou pas? Dans le Zohar. C'est intéressant, parce que là-bas, on parle de 13 planètes. De 13 sphères avec le Soleil. Moi, je trouve ça intéressant. Ouais. Baruch HaShem. Donc, on voit en réalité, et dans ce Zohar-là, on parle même d'une grande planète énorme qui a autour d'elle des astéroïdes qui sont des petites planètes d'eau, de glace. C'est intéressant parce que Jupiter, je pense, hein, elle a un satellite dans ses couronnes, d'accord, dans ses anneaux. Elle a un satellite, entre guillemets, c'est Saturne, ouais, qui sont faits en blocs de glace. Et ils ont découvert une planète, tout simplement, une planète, là-bas, ils l'ont appelée Europe. Et la NASA a pour projet d'envoyer une sonde là-bas pour creuser dans la glace pour voir s'il n'y a pas de la vie là-bas. Alors que le Zohar, il en parle déjà de cette histoire. Ben oui, quand on dit qu'il y avait des eaux supérieures, des eaux inférieures. Hein. S'il y avait des eaux supérieures qui sont descendues, avec ça, on a séparé les eaux d'en haut, les eaux d'en bas. Dans l'espace, où il fait froid, l'eau, si tu la mets là-bas, tu la laisses là-bas, elle devient quoi? Des glaçons. Ah non, parce que pendant longtemps, il y a eu un débat de dire « Oui, mais dans l'atmosphère, il n'y a pas d'eau. » Oui, parce que certains pensaient que quand on voyait le bleu dans le ciel, c'était l'eau qu'il y avait dans le ciel. Non, il n'y a pas d'eau dans le ciel. Le bleu que l'on voit, c'est tout simplement la mer qui vient colorer le ciel. D'accord? C'est tout simplement ça. Maintenant, par rapport à ça, oui, on reprend, on refait le bleu. Bon, on étudie plein de choses à qui c'est la famille que le Rav Mirmezou, c'est étonnant. Alors, par rapport à ça, qu'est-ce qu'on voit? On va continuer, Bezrat Hashem. On voit tout simplement qu'après ce char-là, des Igoulim, on dit qu'il y a le char des Ta'amim, Nekudot, Tagin et Otiot. Alors, on reprend, d'accord? Les Ta'amim, vous savez, c'est quoi les Ta'amim? Quand on va lire la Torah, oui, on a ces petits signes un peu particuliers qui nous disent comment chanter, comment ponctuer. Il y a le Sof Pasuk, le Atnah, qui nous disent comment ponctuer le verset, comment le lire, d'accord? Et comment chanter le verset. Comment le chanter? Aujourd'hui, quand les gens ils viennent, ils chantent la paracha, ils zappent partout, ils zappent les ta'amim, ils enlèvent des brachot, au calme. Oh, oh. Ah ouais. Ah ouais. Après, quand on voyait les vieux grands-pères qui disaient « Tu reprends, t'as oublié, paser gadol, paser... » Oui, t'as oublié. Oui, tu reprends. On dit « Non, attends, pourquoi ?» etc. Alors, c'est vrai qu'en termes d'alakha, on dit que c'est sur les tahamines qui viennent réellement ponctuer le verset, donc sauf Pasuk et Atnar, qu'on se doit de reprendre le Chazan. Mais si le Chazan, il ne connaît pas les Tahamim, malheureusement, d'accord, il ne se souvient pas de la paracha comme il faut, malheureusement, on ne va pas le reprendre pour d'autres Tahamim qu'il a oubliés. Mais on voit qu'il y avait des gens qui avaient pour coutume, même pour ça, de reprendre. Parce qu'ils savaient qu'on leur enlevait une bracha dans cette façon de lire la Torah. Oh oh, suivez ou pas? Comment ça suivez? Dans cette façon de prononcer les lettres. C'est une bracha. Alors c'est vrai que la lecture de la Torah, elle est d'instauration rabbinique, tous les Shabbatot, etc. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Et à l'époque, il fut une époque où tout le monde connaissait la lecture de la Torah par cœur.
Mais pourquoi on a des ponctuations différentes selon les Ashkenazim et les
Sfaradim? C'est une excellente question. Pourquoi différentes ponctuations? Alors là, on va vous répondre, tout simplement. C'est une question un jour qu'on a posée à l'Admour de Gour. Oui. Et l'Admour de Gour, pas l'actuel Admour de Gour. D'accord? Le grand-père de l'Admour de Gour actuel. Il a dit, de quoi vous êtes en train de vous plaindre? Quand on est sorti du désert, à Kadosh Baruch Hu, quand il nous a donné la Torah, il a donné 13 sifrets Torah. Il a demandé à Moshe Rabbeinu d'écrire 13 rouleaux de la Torah différents. Un dans le Mishkan, où il y avait là-bas une façon commune aux 12 tribus de lire, de prononcer et de prier, et une façon différente pour chacune des tribus de lire et de prononcer et d'écrire son Sefer Torah.
Donc ils avaient chacun un brachot ?
Tous les mêmes lettres, tous les mêmes versets, mais chacun avait une façon différente de prononcer la Torah lorsqu'ils étaient entre eux dans leur tribu.
Non, mais ça veut dire que vous venez de nous dire...
Parce que chaque tribu se complétait, chacune devait apporter une bracha particulière pour l'ensemble de l'humanité. Donc ils ne pouvaient pas tous lire de la même façon et prononcer de la même façon. D'où viennent les différentes coutumes de prononciation aujourd'hui? On rajoute à cela qu'on a été exilé pendant assez longtemps, d'accord? On est revenu il n'y a pas si longtemps que ça, hein, d'accord? En Israël. Donc on voit en réalité qu'on a été exilé, qu'on s'est assimilé à d'autres peuples, d'accord? Et à leur prononciation. On voit que les Tunisiens, ils ont ni le son « ce » qui existe dans la lecture de la Torah, ni le son « peu ». Le « p » n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'en Tunisie, c'est un pays dans lequel il n'y a pas ces sons-là, ils n'existent pas. Donc quand vous allez leur dire « Pessah », ils vont vous dire quoi, les vieux Tunisiens? « Bichah ». Hein, ouais. Non, mais on ne parle pas que des Tunisiens. On voit comme ça. On voit chez les au Maroc, le « che » n'existe pas. Ça n'existe pas, « khamsha ». On dit « khamsa ». Oui ou non? Mais pourquoi? Parce que le « che » n'existe pas. Donc on voit aussi chez les Allemands, chez les Russes, partout. On a pris des prononciations des peuples parmi lesquels on était. Donc rajoute à cela, ça devient compliqué de savoir c'est quoi les véritables coutumes. Maintenant, on a des rishonim qui ont écrit chez les Ashkenazim comme chez les Sfaradim. Lord Itzion, dans le Chelek Aleph, il écrit là-dessus un responsa étonnant, où il rapporte réellement comment on doit prononcer les lettres. Maintenant, par rapport à ça, on a déjà fait une bracha avant de commencer la vidéo. Maintenant, par rapport à ça, qu'est-ce qu'on voit? On voit tout simplement, pour reprendre, on voit tout simplement qu'à partir du 17 Elul, on rentre dans un char, dans une création du monde. On reprend. La Kabbalah nous enseigne en réalité que Dieu a commencé la création du monde à Rosh Chodesh Nissan. On ne va plus rien comprendre. Hein. Mais que cette création, elle a terminé avec la création de l'homme, qui effectivement, lui a été créé, non pas au bout de 6 jours, comme nous on connaît de 24 heures, mais au bout de 6 jours pour Akadosh Baruch Hu dans sa création. C'est-à-dire il a divisé la création de ce monde en 6 étapes. Et attention, là vous êtes tous choqués. Je vous avertis, vous êtes choqués. D'accord? Mais la période de ces 6 étapes, appelées 6 jours dans la Torah, leur durée est inconnue. Rashi dit, chaque jour, peut-être qu'il a duré 1000 ans. On voit qu'on a des débats entre les Tanaïm à l'époque, qui sont rapportés dans le Zohar, que certains disent, non, chaque jour, il a duré 10 000 ans. Non, peut-être 100 000 ans. Non, peut-être 1 milliard d'années. Il y a un avis comme ça. Non, mais on reprend, on reprend. Parce qu'aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui se prennent la tête pour dire, mais attends, le calendrier hébraïque, il dit que là, cette année, on va rentrer dans l'année 5777. Oui, c'est 3-7. C'est bien, non? Voilà, donc 5777. Oui ou non? Non, parce que le 7, c'est le chiffre qui relie le corps et l'âme. C'est le Shabbat, ça représente. Hein, 3 fois 7, peut-être que Mashiach, il va venir. Hein? Oui. Baruch HaShem. Maintenant, c'est bien, ça prouve que je ne suis pas tout seul, il y a des gens qui répondent Amen. Alors maintenant, par rapport à ça, on voit quoi? On voit tout simplement que Akadosh Baruch Hu, il a commencé durant cette période-là. Et c'est très étonnant ce que je vais vous dire. Parce qu'en réalité, quand aujourd'hui, il y a des scientifiques qui disent « Mais la Terre, on peut prouver scientifiquement qu'elle a plus de 5 milliards et demi d'existence. » Moi, je vais leur répondre par rapport à cet enseignement du Zohar qui leur manque, parce que pas mal d'années. Parce qu'en réalité, si on va selon cet avis dans le Zohar, la Terre, à la fin de la création, où on a créé l'homme, elle avait 6 milliards d'années. Ouais. Et que toutes les étapes des créations qui sont divisées en 6, qu'on appelle les 6 jours de la création, qui sont 6 étapes, ne se sont pas déroulées au même rythme que le nôtre. C'est des jours pour Dieu. C'est quoi un jour pour Dieu? Dieu, il n'a pas de corps. D'accord? Et le temps n'a aucune influence sur lui. Hein? Oui? Donc ça veut dire quoi en réalité? Ça veut dire que oui, c'est possible. C'est étonnant hein, ce qu'on est en train de vous dire. Maintenant, par rapport à ça, on voit quoi? On voit que le Rambam lui-même parle d'évolution. L'évolution. L'évolution de la création. Il y avait des halakhot à l'époque du Rambam, reconnus par beaucoup de scientifiques à son époque. Certains dangers de laisser du linge sale traîner dans un coin, parce que ça pouvait débloquer à une telle vitesse des bactéries qu'on pourrait retrouver là-bas des insectes. Pire, voire d'un seul coup des rats débarquer sortir du linge sale. C'est étonnant ou pas? Et c'était reconnu parmi différents trucs. C'est une superstition? Non. Après, il dit ça, ça n'existe, ça a appelé à disparaître. Tout simplement pour quelle raison? Parce que le monde est appelé à évoluer. Le monde est appelé à évoluer. Zohar rapporte que même l'homme, au moment, avant d'être créé, il a évolué. C'est étonnant ce que je veux dire. Il a évolué. Il y a une évolution dans l'homme. Comment il a été créé? Dieu a pris tous les matériaux de la création pour les mettre dans l'homme. Si on analyse un corps humain, il y a de l'or, de l'argent, du cuivre. C'est peut-être pour ça qu'il y en a qui ont été réduits en esclavage. Ils ont dit, je vais vendre un bout d'or. Je ne sais pas. C'est une plaisanterie très déplacée ce que je fais. Mais pour vous expliquer, en réalité, dans le corps humain, il y a tous les éléments de la création. Tout. On retrouve tout. Et on dit que l'homme, quand il a été créé, il a subi une évolution avant que Dieu introduise une âme dans son corps. Donc ça ne rejoint pas du tout le côté scientifique et la théorie de Darwin ici. Hein. On parle d'autre chose. Mais en réalité, on voit quoi? Que le monde n'a pas été créé comme nous on pense, qu'en 6 jours de 24 heures. Donc à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on te dit? On dit oui. Alors Kadosh Baruch Hu, il a commencé lui sa création. C'est pour ça que là-bas tu dis Aleph Benissan. D'accord? Yarosh Chodesh Nissan. Mais que l'homme a été créé à la fin. Rosh Chodesh Tishri. Dernier élément, et on rapporte dans Bereshit, que l'homme a été dernier, créé en dernier. Deux raisons rapportées par Rashi, au nom du Midrash. Quand, si l'homme demain vient à s'enorgueillir et à dire, mais moi, je suis plus important et plus intelligent et j'ai la science pour m'expliquer la création, Kadosh Baruch Hu va dire, attends, je te rappelle, toi, tu as été créé après l'insecte. Donc après l'insecte le plus insignifiant à tes yeux, tu as été créé. Ou alors, si l'homme écoute l'ordonnance divine, ça devient un invité de marque. Et quand tu reçois un invité de marque, d'abord tu prépares la nourriture, tu mets la table, et une fois qu'il arrive, tout est prêt. Attends, c'est à nous de choisir pour cette nouvelle année quel est l'homme que l'on veut être. Celui qui a été créé après l'insecte le plus insignifiant, ou celui pour qui toute cette création a été préparée. Maintenant, par rapport à ça, on voit quoi? On voit qu'il y a ce char-là, les Ta'amim Nikudot et Tagin Otiot. C'est intéressant. D'abord, on parle des Ta'amim. D'accord? Donc, des ponctuations, entre guillemets. On voit dans les Ta'amim, on a des Ta'amim au-dessus des lettres, au milieu des lettres, en dessous des lettres. Oui? C'est intéressant. Nikudot, d'accord? Les points. Ok? Les points, la ponctuation, les dagesh. Les dagesh, mais aussi... tous ces petits points qu'on met sous les lettres ou à côté des lettres, d'accord, ou même au-dessus des lettres pour nous dire comment lire le mot. Vous voyez ? Ce qu'on appelle en français les voyelles hébraïques. Vous voyez ? Je ne sais pas si, c'est des voyelles, si on peut appeler ça des voyelles, mais bon, c'est comme ça qu'on appelle ça en français. Ils n'ont pas su comment les appeler, les points. D'accord ? Donc, par rapport à ça, on voit quoi ? On voit qu'on a ces points-là qui te disent comment lire le mot, qui te donnent la direction. Après, tu as ce qu'on appelle les tagines. Les tagines, c'est les petites couronnes qu'on fait au-dessus des lettres dans un Sefer Torah. Et à la fin, tu as les otiotes. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que dans la création, comment Dieu a créé ce monde, il y a une partie de la création après pour faire descendre la Kedusha, la Shrina, la présence divine. Dans le Shaar HaEmunim, on dit que la présence divine, c'est pas Dieu. C'est pas Dieu. C'est l'expression du divin dans ce monde. Donc, quand on te dit faire entrer la présence divine dans ta maison, faire entrer l'expression du divin dans ce monde. Et c'est pour ça que la présence divine dans ton foyer ne dépend que de toi et de ta façon dont tu vas parler dans ton foyer. Parce que quand tu parles en respectant l'ordonnance divine, c'est l'expression du divin qui est en train de s'exprimer là. Oui ? Et la Shrina, elle réside dans ta maison. Elle rentre dans tes murs. Vous suivez ou pas ? C'est intéressant. Et par rapport à ça, on voit quoi ? On voit donc qu'en réalité, à partir de Yud Zayin Be'eloul, on rentre dans le stade des Nekudin. Donc c'est ces points-là dont on a parlé, d'accord, ces voyelles qui te disent comment lire les mots. Et on voit qu'à ces dates-là, à partir du Zayin Be'eloul, viennent au monde un maximum de tzadikim. Et faites votre calcul, reprenez vos calendriers hébraïques et faites un peu de recherche, vous allez voir que chaque jour, on a un maximum de tzadikim qui viennent au monde durant la période de Elul. Pour quelle raison ? Parce que c'est quoi les Nekudim ? Après que Dieu ait créé toute la création spirituelle, d'accord ? Il fallait donner une direction à cette création, un sens. Oui ? Donc, cette direction et ce sens, dans la Kabbalah, on compare ça à un rouleau de Sefer Torah avec des lettres, avec les ponctuations, avec les points au-dessus, en dessous, etc. C'est joli. Mais pourquoi ? Parce qu'en réalité, comment toi, tu arrives à t'exprimer et à faire passer une information ? Si ce n'est principalement à travers l'écrit, à travers la lecture. Comment tu enseignes aux gens ? On a innové, nous, le peuple juif. Quand les rois de Babylone ont décidé de se débarrasser des juifs, à l'époque du roi Charlemagne, ça remonte à loin, hein ? D'accord ? Ça vous rappellera que déjà en Europe, les juifs sont arrivés avec les Romains. Donc il y avait déjà des juifs sur place, en France. Mais en plus de ça, le roi Charlemagne, il avait besoin d'esclaves pour les mettre dans les mines. Et les rois de Babylonie ont dit, nous on va te vendre nos esclaves. Ils sont partis voir Marou, qui était le grand Dayan de toute la Babylonie. Ils ont dit, toi et tous tes élèves, on va vous vendre. Pourquoi ? Parce que les non-juifs rentraient dans les tribunaux à l'époque, c'était l'ère barbare. D'accord ? Donc, quand ils réglaient leurs différences, c'était un coup d'épée ou un coup de tambourin. Enfin, tambourin, entre guillemets, hein, plus un coup de bâton. Maintenant, ce qu'on voit tout simplement, c'est quoi ? C'est qu'ils ont découvert que les juifs, eux, réglaient leurs problèmes parce qu'ils s'enseignaient la Torah de façon orale. Mais qu'ils avaient aussi des écrits. Et ils ont décidé, les non-juifs, d'aller dans les tribunaux juifs pour se faire juger, pour régler leurs différends à l'amiable. Alors ce qui est intéressant, pourquoi ? Parce que après, quand Marou va arriver esclave devant le roi Charlemagne, et que le roi Charlemagne il va recevoir hommes, femmes et enfants qui savent lire, écrire et compter, lui, Charlemagne, il est estomaqué, parce que les Francs, ils n'étaient pas au courant de ça à l'époque. D'accord ? D'ailleurs, on voit les Francs, c'est comme ça qu'ils s'appelaient à l'époque de Charlemagne. Les Allemands, qui étaient les ennemis de Charlemagne, ils appelaient les Francs. Oui. Et les Francs, pour les Allemands, c'était des gens qui étaient un peu débiles. Et c'est resté une expression aujourd'hui en Israël. En yiddish, quand on veut dénigrer quelqu'un, on l'appelle Franc. Ce qui est très marrant, parce qu'à la base, quand on dit Franc, on parle des Français, qui sont ashkénazes. Moi, je trouve ça intéressant. Bon, ceux qui voudront comprendre, comprendront l'allusion. Maintenant, par rapport à ça, on voit quoi ? On voit tout simplement une chose extraordinaire. On voit tout simplement que lorsqu'ils sont arrivés là-bas, Charlemagne, il leur a dit, mais comment vous faites ? Comment vos enfants savent dire, écrire, compter ? Il dit, ben nous, à partir de l'âge de 7 ans, c'est l'âge du chinour. Donc quoi qu'il arrive à un enfant, on commence un peu à l'âge de 3 ans à lui apprendre les lettres, à l'âge de 5 ans, on commence un peu le chumash. Mais à l'âge de 7 ans, c'est l'âge d'éducation, on leur enseigne. D'accord ? Les Mishnayot, les Gmarot, on leur enseigne. Il dit, alors, vous enseignez à vos enfants ? Il dit, très bien. Donc Charlemagne décide de faire passer une loi, obligeant les enfants à partir de 7 ans, de devoir aller à l'école. Ça vous rappelle quelque chose ? C'est rapporté dans les Sfarim, les Rishonim. Maintenant, par rapport à ça, on voit par la suite que Napoléon Bonaparte, qui va établir le premier code civil, si je ne me trompe pas, en cours de droit, première année, c'est ce qu'on enseigne, d'accord, le droit napoléonien, qui va précéder le droit anglo-saxon, donc c'est avant, précédé. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit tout simplement que lui, il va se rendre compte aussi que les talmudistes, ils sont versés dans l'étude. Il va demander aux talmudistes de guider les premiers, entre guillemets, grands... comment ça s'appelle les gens qui sont dans le droit, les premiers grands juristes, d'accord, à rédiger le code napoléonien. Encore une fois. C'est intéressant, ce qu'on voit. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il est différent de ses dans ce monde. Et ce cédère, il se fait à travers sa Torah. Et sa Torah, quand tu la lis, en fait, même dans les lettres que tu lis, toi, tu crois chaque semaine, tu vas lire dans un vieux Sefer Torah, une vieille paracha que tu connais depuis des millénaires. Il y a une énergie qui se crée à travers tes cordes vocales, à travers ton diaphragme, quand tu prononces correctement, quand tu chantes correctement, quand tu es sur la bonne longueur d'onde, qui te permettent d'ouvrir les serrures, on a parlé du coffre-fort, des portes du ciel. Oh. Et c'est comme ça que c'est expliqué. Et à travers toutes nos prières, et qui a un son très particulier dans le ciel, qui ouvre toutes les portes, quand nous, on n'arrive pas à prier correctement, c'est le son du chauffard. Depuis mon étroitesse, depuis ma douleur, je t'ai appelé Dieu. Réponds-moi avec largesse. Le chauffard, on sonne du côté le plus étroit. Et le son, il sort du côté le plus large. Et ça, ça ouvre les portes du ciel. En souvenir de la Kedat Yitzhak, en souvenir de beaucoup de choses, mais c'est un son qui est particulier. Ça, et ce qu'on appelle les instruments à cordes, comme la harpe ou le violon. À l'origine, le premier instrument qui ressemblait à ça, la harpe et le violon, c'est David Ameller qui en jouait. Il avait la harpe au-dessus de son lit. Là, le vent du nord venait, faisait bouger la harpe, il se souvenait qu'il devait faire une prière particulière à l'époque, qui était le premier Tikkun Ratzot, pas pour la destruction du temple, mais pour demander à Dieu le mérite de pouvoir le construire, le temple. David Ameller. Et nous, on ne fait même pas Tikkun Ratzot pour pleurer la destruction du temple. Enfin, nous, ceux qui font pas. Alors, maintenant, par rapport à ça, hein, parce qu'il y en a qui font. Par rapport à ça, hein, on voit quoi? On voit une chose extraordinaire. Donc, on voit que dans la création, on ne va pas rentrer dans le détail du Hotzotzraïm. Si vous voulez, on en parlera une autre fois, Bezrat Hashem. Pour rentrer plus dans le détail, on va arrêter le cours là-dessus. On voit tout simplement, hein, voilà, j'étais sûr, j'allais le dire. Il y en a qui disent 5-7-7-7, il faut jouer au casino. Il y a Zachary, va, Zicharia. Alors maintenant, on voit comme ça tout simplement, hein. Je suis sûr. Alors qu'on a qu'à vous sortir ça. Alors, on voit tout simplement, hein. Dieu bénisse l'âme Israël. Mais c'est pour ça, quand on enseigne la Torah avec beaucoup d'humour, les messages y passent beaucoup mieux. On voit en réalité une chose qui est fantastique ici, et on terminera là-dessus, le shiur. On voit tout simplement que si on apprend, et on comprend sur nous pour cette nouvelle année, une chose simple, d'apprendre à lire en hébreu, d'apprendre à prononcer nos prières correctement, d'apprendre à placer l'accent tonique là où il faut parce qu'il y a des règles. Moi, je vois des jeunes. Ils ont monté à Yerushalayim un office de Tunisiens. Moi, je trouve ça extraordinaire. Ils sont pas venus au monde en Tunisie, comme moi. Moi, je suis venu au monde à Sarcelles, à la clinique Alexis Carrel, je crois, si je ne me trompe pas. Mmh. C'est l'hôpital nord-parisien. Je ne sais pas comment ils l'ont appelé le truc. Bref. Donc, qu'est-ce qu'on voit en réalité? Et ils sont pas... Mais ils ont gardé... Bon, voilà. La connexion est faible, donc on va vraiment terminer, Bezrat Hashem. On voit tout simplement que l'endroit géographique où tu es venu au monde, dont tu as l'origine, c'est l'endroit qui parle à ta neshama. Et quand tu vas, selon la coutume de tes pères, pour prier, pour prononcer, là, dans le ciel, tu répares des choses dans ton foyer. Et on le voit. Malheureusement, on a énormément de frères que, lorsqu'ils ont fait teshuva, je ne vais pas me faire beaucoup de copains, mais ils ont suivi certains mouvements de chassidoute. Pour certains, ça leur a réussi, mais pour beaucoup, il y a eu des problèmes de schlambéite et différents problèmes dans ces mouvements-là. Pour quelle raison? Parce que les enfants, reconnectez-vous à vos racines. Même les maîtres de ce chassidouyot-là, ils vous disent, reconnectez-vous à vos racines. Suivez le nosar du sidour comme vous avez l'habitude, mais prononcez au moins comme vos pères et vos grands-pères et vos arrière-grands-pères avaient l'habitude de prononcer. pris dans d'autres sidourim, c'est une autre coutume, c'est pas la coutume d'origine, c'est pas grave. Mais pour les convertis, c'est pas la même chose. Le converti choisit sa coutume. Oui. Maintenant, quand c'est une femme qui se marie, elle doit suivre la coutume de son mari. Donc c'est le mari qui... D'accord ? Maintenant, on reprend. Donc au moins, quand vous prononcez, prononcez comme vos pères. C'est ça que je suis en train de dire. Je ne suis pas en train de montrer du doigt un mouvement plus qu'un autre, parce que les mouvements dont on parle, comme le mouvement Chabad, c'est un mouvement extraordinaire qui fait des choses extraordinaires à travers le monde. Ça, il ne faut pas l'oublier. Mais, pour avoir une bracha dans le ciel, prononcez comme vos pères.
Auprès de qui?
Ah, on va mettre des cours en place. Attendez, Bezrat Hashem, pour ces choses-là. Mais prononcez comme vos pères. Tout simplement, ça ouvre les portes du ciel. Votre neshama, elle vient d'un endroit particulier. De vos pères, vos grands-pères, vos arrière-grands-pères. On voit aujourd'hui des gens, même sans parler des mouvements chassidiques, hein, dans les milieux orthodoxes, qui deviennent lituaniens. Ils changent de nom. Ma femme est avocate. D'accord ? On voit des gens qui viennent et qui demandent à changer de nom. Le nom, il n'est pas assez ashkenaz. Oh, ton nom, il est dans le Tanakh. Oui ? Et toi, tu viens maintenant, tu as un nom hébreu. On a beaucoup de grands rabbins qui ont changé leur nom à connotation germanique ou ashkenaz, d'accord ? Pour les traduire en hébreu. Moi, j'ai un voisin qui est ashkenaz, il s'appelle Pardes. D'accord ? Il a traduit du terme yiddish de Pardes. Il a traduit Pardes. Pourquoi ? Parce que son père, qui était un grand rabbin à Tel Aviv, d'accord, qui a tous ses fils, il est Talmid Chachamim Ben Porat Yosef, et j'ai le mérite d'être ami avec ses fils, ben ce père, il a dit, c'est plus important de prononcer mon nom dans le Lashon HaKodesh, qu'en Yiddish. Et il a une bracha extraordinaire, tous ses fils sont sortis Talmid Chachamim, Dayanim, Rashi Yishivot, Rashi Kolelim, Ben Porat Yosef. Des gens qui travaillent pour le Ham Israël, à la Rabbanout, dans les Beddin, dans la Kashrout, extraordinaire. Par rapport à ça, ce que j'essaye de vous dire, et on terminera là-dessus, c'est que si on se relie réellement à nos racines, dans notre façon de prononcer nos prières, on aura une meilleure année.
Il faut
connaître ses racines, tout simplement. Baruch Hashem. Maintenant, tout simplement, on voit quoi ? Et on terminera là-dessus. Là, je ne me suis pas fait beaucoup de copains, là, je vous dis tout de suite avec ce que je viens de dire. La femme apprend quoi qu'il arrive la coutume de son mari. La neshama de la femme, à partir du moment où elle se marie, elle suit systématiquement le minag. Ses racines au niveau de son âme deviennent les racines de l'âme de son mari. D'accord ?
Le moussaf ashkenaz israélien que l'on se parle,
oui.
Un petit peu à effacer le moussaf ashkenaz.
C'est un problème. C'est pour ça qu'on voit, moi je dis réellement, on voit dans le mouvement sioniste religieux où ils ont voulu avoir une prononciation hébraïque, en effaçant toute trace de coutume de prononciation comme leur père avait l'habitude dans les pays ashkénazes, connaissent des crises et des problèmes avec leur jeunesse aujourd'hui. Comme jamais. Comme jamais. Pourquoi ? Parce qu'il est rapporté par nos maîtres. Rabbi Meir Balanes le rapporte. Et dans Maaseret Souka, c'est rapporté. Il y a un homme, il a été protégé en enfer. Ça n'est jamais arrivé en enfer. Pourquoi ? Parce que quand il prononçait, il faisait la différence entre chaque lettre, à un tel point qu'il savait faire la différence entre le tête et le tav. Tu me disais quoi la différence entre le tête et le tav ? Un séfarade. C'est teuteux, oui ou non ? C'est tête-tête, oui ou non ? Il se dit, là, il prend la tête. Oui ? En réalité, qu'est-ce qu'on voit ? On voit tout simplement que le tête se prononce de façon plus prononcée que le tav. Et quand le tav, il n'a pas de dagesh, à la fin, il se termine légèrement avec un petit z. Et. Léger. Chez les séfarades, comme chez les ashkenazes, c'est de leurs ancêtres comme ça. Après, chez certains, ils ont plus prononcé le se, et chez d'autres, ils ont plus prononcé le te. Il faut rétablir ce truc-là, parce qu'on devrait tous prononcer pareil, ce tab-là. Bezrat Hashem. On voit, d'accord ? On voit, par exemple, le dalet. Lorsqu'il est à la fin d'un mot et qu'il n'a pas de dagesh, à la fin du mot, il n'a jamais de dagesh, d'accord ? Comme echad, on ne dit pas echad. On voit dans la halakha, dans le Shulchan Aruch, on dit que toutes tes kavanot de Shema Israël, tu dois le prononcer sur la lettre dalet que tu dois prolonger. Alors, comment tu fais echad deux ? J'ai même entendu des gens dire, bah, quand tu dis deux, il n'est plus un, il devient deux. Oui ou non ? Non, c'est deux, non. Le dalet à la fin d'un mot dans la halakha, c'est rapporté. Non, les sfarim qui parlent de ça. D'accord ? que le dalet à la fin d'un mot, comme il n'a pas de dagesh, il se termine en, en z. Donc c'est pas echad, c'est echad z. Et quand tu fais echad z, oui, que tu le prononces longtemps, là, tu peux, je t'assure que ton echad, tu peux avoir toutes les kavotes que tu veux, ça dure assez longtemps.
Oui.
Hein? David z. Ça fait. Ah ouais, ça fait un peu anglais, ouais. Vous comprenez ou pas? Ah ouais, normalement c'est comme ça. Exactement. D'accord? Maintenant, si on veut prononcer comme il faut, on devrait dire Dawidz. Et là, ça devient. Quand on connaît un David, après, ça devient une partie de rigolade quand on l'appelle. Alors, mais c'est sympathique. Je vous assure, c'est sympathique. Maintenant, vous pouvez vous moquer, vous pouvez y croire, vous pouvez ne pas y croire. Je vous assure que ça, ça rapporte la bracha. Ça rapporte la bracha. Et on aura une petite pensée pour Déborah Amar, d'accord, qui a fait une page sur Facebook sur laquelle je suis intervenu 2-3 fois avec mon cher Aaron, d'accord, qui est en train de vivre quelques petites épreuves de santé et qui fait un maximum pour transformer ces épreuves en une occasion de faire un maximum de Zikoui Arabim. Donc Bezrat Hashem, hein, cette jeune fille, on lui souhaite Bezrat Hashem, une refoua shelema, Bezrat Hashem, un zivou gagoun, Bezrat Hashem, et beaucoup de simcha dans la vie, des enfants en bonne santé, avec une excellente santé. Amen, Kenny Ratson, et Shana Tova à tous.